À toutes et à tous, toujours heureux d'être parmi vous, même si aujourd'hui je suis un peu désolé parce que j'ai traîné toute la semaine une infection pulmonaire là, qui m'a un peu fait souffrir, et en plus on vient de m'opérer des yeux, et pour la première fois de ma vie, enfin pas de ma vie, mais depuis 25 ans, je n'ai plus de lunettes, sauf pour la lecture, mais je veux quand même vous parler aujourd'hui d'un sujet que je n'ai peut-être jamais traité, consciemment en tout cas, et qui est pourtant l'un des plus importants de l'Écriture, c'est celui de la grâce. En fait, j'ai toujours été très conscient personnellement d'être un gracié, un homme qui a la faveur de la parole, la faveur de Dieu, qui s'est exprimé par cette grâce spectaculaire et importante qui nous a révélée en Jésus-Christ. Alors, je me suis mis à voir ça un peu plus près, inspiré aussi par une lecture que je vais citer tout à l'heure de Max Lucado. Je ne sais pas si vous avez déjà quelqu'un entendu parler de Max Lucado. Oui ? Oui. Si vous étiez américain, vous sauriez que... Il y a peu d'Américains qui n'ont pas connu ou entendu ce nom parce que tout récemment, la revue très connue aux États-Unis, Christianity Today, mais aussi le New York Times, ont déclaré que Max Lucado était le prédicateur le plus connu des États-Unis actuellement. Il a écrit une cinquantaine de livres, dont beaucoup pour les enfants d'ailleurs, qui ont été traduits en 50 langues, 145 millions de lecteurs. Donc, juste pour dire que cet homme est un homme remarquable que le Seigneur utilise jusqu'à aujourd'hui d'une façon assez spectaculaire. Et je me réfère d'un livre en particulier qu'il y a beaucoup qui ont été traduits en 50 langues, il est dit, dont celui qui s'appelle « Déshydraté ». Ça donne déjà toute une idée sur les réponses qu'il apporte à des sujets de ceux qui, quelque part, sont déshydratés. Je peux simplement vous le recommander. Mais d'abord, quand même, je vais faire une petite introduction sur les différents titres, les quatre façons de considérer le sujet. Donc, ma petite introduction, c'est de répondre à la question « La grâce, en fait, c'est quoi ?» Alors, le dictionnaire, le Robert, le définit comme une faveur accordée librement à quelqu'un. Il ajoute une définition qu'il appelle « religieuse et spirituelle ». La grâce est un sentiment profond de salut et d'amour divin, perçu comme un don de Dieu qui apporte paix, joie et harmonie, nécessitant une ouverture spirituelle pour être compris et vécu. C'est déjà pas mal, bien qu'il manque quelque chose d'important, qui est, il n'est pas d'allusion au salut. Blaise Pascal, de son côté, l'a appelé une inspiration de Dieu par laquelle il nous fait connaître sa volonté, par laquelle il nous excite à la vouloir accomplir. Ça, c'est une façon générale, bien sûr, vraie pour chacun de nous. La grâce de Dieu nous permet de comprendre l'Écriture et avoir le désir de la mettre en pratique. J'espère que c'est vrai pour chacun de nous ce matin. En ce qui concerne le vocabulaire, le mot « gratia » qui est du latin est la traduction du mot « charis », du grec « charis ». « Charis » est un mot intéressant parce qu'il est tout près du mot « chara » qui veut dire la joie, et qui, comme « chairo », le verbe qui veut dire se réjouir. Le mot « charis » figure 170 fois dans le Nouveau Testament, mais avec un grand nombre de sens divers. L'Ancien Testament utilise deux termes en particulier, ren, qui est le plus fréquent, qui signifie une faveur totalement imméritée. Comme dans Jérémie 31, que je vais afficher tout à l'heure, cette grâce qui est accordée par un supérieur vers un inférieur, c'est-à-dire par Dieu à l'homme, ou aussi de l'homme vis-à-vis de l'homme. On dit « trouver grâce aux yeux de quelqu'un ». L'autre mot, c'est « chesed », qui est l'amour constant, la bonté, la bienveillance, l'amour, et en particulier en relation avec l'alliance, l'amour de l'alliance. Les musulmans, en particulier de l'Afrique du Nord, utilisent en plus un troisième terme qui est « baraka ». Ils disent quelquefois « c'est la baraka », c'est-à-dire la bénédiction. Mais nous voulons nous limiter ce matin au sens profond de la grâce qui s'applique au salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Et ceci est appliqué en particulier dans les définitions bibliques qui sont, d'après, dans l'Ancien Testament, dans le texte de Jérémie, le peuple des réchappés à l'épée a trouvé grâce, le mot ren, dans le désert. Je m'en vais donner du repos à Israël. Et surtout dans le Nouveau Testament, c'est bien sûr l'Épître aux Éphésiens en particulier qui insiste en détail sur la valeur de la grâce de Dieu. Et ce texte, on devrait lire en fait tout ce texte de ce premier chapitre, les versets 3 à 13, qui en une seule phrase sans ponctuation nous dit d'une façon spectaculaire ce qu'est la révélation de la grâce de Dieu. Et j'ai juste noté les versets 5 à 7. Il, c'est-à-dire Dieu, nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Deux fois le mot grâce dans la seule phrase. Mais je vais donc voir de plus près en quoi ça consiste. Donc le premier point que j'ai noté, c'est la grâce reçue, ou si vous voulez, le miracle de la grâce. Ben, peut-être qu'il va arriver, s'il se décide, oui. Le miracle de la grâce. Et là, je ne peux m'empêcher de laisser Max Lucado vous expliquer comment le Seigneur a accordé la grâce au fils prodigue. Vous connaissez bien la parabole du fils prodigue dans Luc 15, ce fils qui a rejeté l'amour du Père, qui est parti avec ses biens, les biens du Père, et qui est finalement tombé très, très bas, et qui a été relevé par la grâce de Dieu. Donc, quand il décrit la situation de ce fils prodigue, voilà comme il dit, comment il est revenu vers le Père. Il se met donc, vous vous souvenez, il était près des cochons, là, dans une situation un peu plus désespérée, il n'avait même pas la nourriture des cochons à disposition, et là, il se dit, j'ai un père. Il est loin. Je me suis beaucoup éloigné de ce père. Mais il existe toujours. Et c'est un père richissime. Il a tout ce qu'il faut. Le dernier des ouvriers est à l'abondance auprès de ce père. Et moi, ici, je meurs de faim. Mais, donc, je vais retourner vers le père. Mais, il y a un terrible obstacle. C'est ma culpabilité. Je n'ai rien, mais plus rien à demander à ce père. Et voilà comme il dit, comme il fait. Le fils prodigue se traîne péniblement sur le chemin du retour. La puanteur des porcs qui lui colle à la peau oblige les passants à faire de grands cercles pour l'éviter. Mais lui ne s'en aperçoit pas. Les yeux fixés au sol, il répète son discours. « Mon père !» Et sa voix est à peine audible. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il ressasse ces phrases. devrait-il en dire plus ou en dire moins, ou encore rebrousser le chemin des directions la porcherie? Après tout, il a dilapidé son héritage et sali le nom de la famille. Au cours de l'année écoulée, il s'est réveillé avec la gorge sèche, des maux de tête, des femmes et des tatouages plus souvent qu'une star de rock. Comment son père pourra-t-il lui accorder son pardon? Je pourrais peut-être lui proposer de rembourser les cartes de crédit. Le voici tellement focalisé sur le châtiment qu'il n'entend pas la voix de son père, qui court à sa rencontre. Le père embrasse le garçon couvert de boue comme s'il s'agissait d'un héros au retour de la bataille. Il ordonne aux serviteurs d'apporter une robe, un anneau, des sandales, comme pour dire « Je ne laisserai aucun de mes fils ressembler à un gardien de port. » Allumez le grill, amenez à boire et que la fête commence. Il est clair que cet accueil du père, en quelque sorte, certains diraient, c'est pas normal. Quel père humain aurait réagi de cette façon-là? Certains auraient dit, tu n'as plus rien à voir ici. D'autres, peut-être, pris de pitié, auraient dit, bon, d'accord. Alors, on va te donner un petit boulot pour te retaper, pour déjà que tu sentes moins mauvais. Mais l'accueillir en héros presque, avec un pardon. J'imagine un instant les chefs religieux qui faisaient partie de ceux qui écoutaient la parabole. C'est marqué dans le premier verset du chapitre 15 de l'évangile de Luc. À part les gens de mauvaise vie qui étaient autour de Jésus, il y avait aussi les chefs religieux. Et quand Jésus commence à parler de pardon, il se moque doucement pour dire « Pardonnez à ce gars-là, jamais de la vie, il n'a qu'à rester et périr là où il est, auprès des cochons. » Mais c'est là le glorieux message de l'Évangile. Et donc l'exemple du fils prodigue illustre parfaitement ce que c'est l'homme, la femme, qui tourne le dos au Père richissime et aimant, qui refuse le cadre, qui refuse la vie abondante que le Père céleste veut lui offrir, déclare et vit que la liberté, c'est de faire ce que je veux, sans aucune contrainte ni obligation. Et il subit les conséquences et tombe bas, très bas, finit par dépendre d'un étranger, un de ces goïms, des non-juifs, et de sa grâce qui lui permet tout juste de garder ses cochons sans même lui permettre de s'en nourrir de la même nourriture. Quand Jésus parle ensuite du pardon, pour les religieux, ce n'est simplement pas juste et pas possible. Il n'a qu'à rester là où il est. Mais c'est ça le miracle de la grâce. Dans Éphésiens 2, je crois que j'ai mis le passage. Non, je ne l'ai pas mis. Autrefois, vous étiez morts, dans Éphésiens 2, à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes de la rébellion, des hommes rebelles à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela. Il dit « vous ». Mais après, il s'identifie lui-même. Il dit « nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes ». Donc il n'y a pas d'exception. Même l'apôtre, si fidèle à son appel, se dit, moi aussi, je faisais partie de ces gens-là. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. C'est-à-dire, on suivait les indications de nos passions. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu, et c'est toujours fameux de lire « mais Dieu », il y a Dieu. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est ça le miracle de la grâce. Or, la grâce signifie qu'on ne peut pas tomber plus bas que le bras du Sauveur Jésus puisse nous atteindre. Quelqu'un disait que plus on tombe dans les ténèbres du péché, plus éclate la lumière de l'Évangile. Donc la grâce signifie un pardon plein et entier est accordé pour qui vient au Christ pour l'obtenir. Elle couvre les souffrances et les transgressions subies et commises totalement, entièrement. C'est une résurrection. Vous vous souvenez que le Père disait du Fils prodigue, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est cela le miracle de la grâce. Quelquefois, il suffirait, je pense, que le chrétien se rende simplement compte qui se rappelle toujours à nouveau l'immensité de la grâce dont il est l'objet pour être pardonné, arraché des ténèbres et de la condamnation éternelle, pour être sauvé en Jésus-Christ, ici et maintenant et pour toujours. Plusieurs textes de l'Apocalypse ont été cités et nous ne pouvons que nous rappeler avec reconnaissance, il y a Jésus. C'est ce qui nous attend, celui qui est digne d'ouvrir les seaux. Mais voilà que, en fait, l'histoire ne s'arrête pas vraiment là. Parce que le deuxième aspect que je voulais éclairer ce matin, c'est que la grâce peut être menacé ou mis en doute. Parce qu'une fois arraché à la mort spirituelle, il nous reste à vivre la nouvelle vie dans la soumission à notre Maître Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, 6, ceci est résumé en une simple phrase, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Et cela comporte tes choix, tes victoires, mais aussi tes tentations. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que le prodigue a fait après avoir reçu le pardon du Père et qu'il est entré dans la fête qui est une image du banquet céleste? Qu'est-ce qu'il a fait après le formidable accueil par le Père, par sa réhabilitation, le festin dans la présence du Père? Alors là encore, c'est Max Lucado qui a imaginé que le fils aîné de la parabole, comme vous le savez, qui n'a pas voulu entrer dans la fête et qui a reproché un tas de choses à son père, tout à fait à tort, je pense quelquefois quand il a dit qu'il a reproché à son père, jamais tu m'as donné de quoi me réjouir avec mes amis. Jamais. Deux fois, il dit jamais. Il se comportait comme un serviteur, alors qu'il était propriétaire. Donc, il imagine que ce fils aîné, dont nous ne savons pas s'il est finalement entré ou non, nous lisons que le père est sorti pour l'inviter lui aussi. Mais on ne savait pas quelle était sa réaction. D'ailleurs, Jésus ne pouvait pas le dire, parce que vous comprenez la parabole. Quand il parle du fils prodigue, les gens de mauvaise vie qui étaient là, ils se sont drôlement identifiés à ce que Jésus disait. Et c'était pour eux un message d'espérance spectaculaire. Le plus bas tombé peut être sauvé. Mais les chefs religieux, ce n'était pas du tout leur problème, ça ne les concernait pas, ils ne se sentaient pas du tout concernés. Et quand Jésus continue la parabole pour parler du fils aîné, les chefs se disaient « Ah, maintenant c'est notre tour, il va nous condamner comme il avait fait quelquefois pour leur reprocher leur traditionnalisme, leur incrédulité, leur refus du Sauveur. » Et voilà que, pas de chance, Jésus dit, le Père est sorti pour demander au Fils d'entrer lui aussi dans la fête. Donc, ils savaient maintenant, les chefs, qu'eux aussi sont concernés par la grâce. Faut-il qu'ils s'y soumettent, qu'ils l'acceptent? Alors, il a imaginé ce que le fils aîné, en fait, servait de tentateur. Le diable qui sème le doute et tente d'entacher l'homme, la femme, de son Sauveur et Seigneur. Et voici comment il a imaginé. Il disait, si père ne veut pas réclamer justice auprès de ce gamin, moi je vais m'en charger. Jolie robe que voici, petit frère, lui dit-il un jour, t'as intérêt de la garder propre. Une seule tâche et père envoie le tout au pressing, toi et la robe. Le jeune frère lui fait signe de le laisser tranquille. Mais à peine voit-il son père qu'il s'empresse de vérifier l'état de sa robe. Quelques jours plus tard, son aîné vient de mettre en garde au sujet de l'anneau. « Belle pièce de joaillerie qu'a donné le père. Au fait, tu devrais le mettre au pouce. » Au pouce? Il ne me l'a pas dit. Ben, c'est des choses qu'on est censé savoir. Mais mon pouce est trop gros pour l'anneau. Ben, il faudrait savoir ce que tu veux, plaire à notre père ou rechercher ton bien-être personnel. Railla l'assistance spirituelle en s'éloignant. Le grand frère n'a pas terminé. Avec la politesse de l'inspecteur des impôts de mauvaise humeur, il revient à la charge en se moquant. Si père te voit avec tes lacets défaits, il te reprendait des sandales. Il ne le fera pas. Elles m'ont été offertes. Il ne fera pas ça, n'est-ce pas? L'ex-fils prodigue se baisse alors pour attacher ses lacets. Ce faisant, il aperçoit une tache sur la robe. En cherchant à l'enlever, il réalise qu'il porte l'anneau au mauvais doigt. C'est alors qu'il entend la voix de son père. « Bonjour, mon fils !» Le garçon, assis, sa robe tachée, ses lacets défaits, porte l'anneau au mauvais doigt. Gagné par la crainte, il réagit par un « « Désolé, père !» puis tourne les talons et s'enfuit en courant. Trop de contraintes. Garder sa robe propre, l'anneau à la bonne place, les sandales bien attachées. Qui peut satisfaire de telles exigences? L'entretien de ces cadeaux commence à peser lourd sur le jeune homme. Se croyant incapable de plaire à son père, il l'évite. Il cesse de porter les cadeaux qu'il n'est pas en mesure d'entretenir et commence même à regretter l'époque plus simple où il gardait les cochons. Au moins, personne ne me harcelait là-bas. la grâce menacée. Peut-être que ça vous inspire des combats ou des contraintes que vous subissez ou que vous avez subi ou que vous subissez encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il est possible de rétrograder en tant que chrétien. Le danger est réel. Le danger, ça paraît presque incroyable, de sortir de la grâce. Vous savez que l'Épître aux Hébreux nous donne de sérieux avertissements dans cette direction. Et l'apôtre Paul doit rétablir avec vigueur le salut par grâce dans le cœur des chrétiens de la Galatie. C'est l'épître de loin la plus véhémente, la plus directe, la plus marquée par le souci de l'apôtre quand il écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ » pour passer maintenant à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Ceci est une réalité dans la vie chrétienne. Le chrétien a pourtant la possibilité de se défendre. Il a les armes pour résister à toute tentation qui veut l'éloigner de la grâce, mais faut-il qu'il les utilise? Ce danger existe pour nous. J'en ai connu dans ma vie des chrétiens rétrogrades. Mais ce n'est pas une fatalité, et la voie de la délivrance, du retour au Père existe à tout moment. Et ceci m'amène à mon troisième point, c'est de dire la grâce retrouvée, ou le retour à la grâce. Le but de la parabole, le but de l'écriture tout court, c'est d'exalter l'amour du Père céleste qui délivre l'homme, la femme, des griffes du diable et de la perdition éternelle. La parabole ne dit rien sur la suite, ni de ce que fait le prodigue, ni de ce que fait l'aîné. Est-ce qu'il a refusé d'entrer dans la salle? Il est invité aussi par le Père, qui représente évidemment le Père céleste. À mes catéchumènes, j'avais l'habitude de leur demander d'apprendre par cœur une dizaine de versets bibliques dans l'année, dont un qui est 1 Jean 1,9, qui est, vous n'étiez pas dans mon catéchisme? Exactement, David le répète, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Le pardon et la purification, c'est le message de l'Évangile. Rappelez-vous. Donc, si le diable n'a pas pu vous empêcher de venir à Christ pour être sauvé, sa prochaine tentative va être immédiatement de rendre votre vie inutile pour sa cause. Il le fait par des tentations de toutes sortes. Nous sommes tentés par la liberté mal comprise, comme les Corinthiens l'ont fait. Tout est permis. On a l'impression, quand Paul décrit cela, qu'il faut comprendre, vous dites, tout est permis, mais moi je vous dis, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et à l'autre extrême, un traditionnalisme qui étouffe l'esprit. J'en ai connu aussi des gens tristes par un attachement à des règles qui semblent remplacer ou qui ont remplacé la grâce de Dieu. Retrouver la grâce est toujours possible, même si nous nous sommes éloignés, loin ou depuis longtemps. Il n'est jamais trop tard. Rappelons-nous que le plan de l'ennemi de nous éloigner de la grâce de Dieu, ça peut aussi par toute autre raison. J'ai parfois l'impression que le bien-être matériel est un des pièges de notre époque à nous. Quand nous lisons tous les matins ce qui arrive à des chrétiens dans la persécution par le rapport de Porte Ouverte, je me dis, ils ont bien d'autres soucis que nous. Mais nous aussi, nous avons des tentations qui peuvent nous éloigner de Christ. Et le bien-être matériel peut être un danger. Rappelons donc que l'apôtre a écrit aux Galates tombés, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Et c'est la vraie liberté. Jésus l'a défini lui-même. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » La vraie liberté vient comme un fruit du pardon. Me voilà au bout de ma petite démonstration de la grâce, ô combien imparfaite, bien sûr. Au bout, ou presque. En fait, il manque quelque chose. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec cette grâce? Mon message doit trouver une application pratique dans notre vie, dans votre vie personnelle et communautaire. Et j'ai appelé ça la grâce vécue ou la grâce appliquée. Cette grâce se vit. Notre témoignage est important. Nous sommes appelés à rester témoins. C'est pour cela que Dieu nous garde en vie. S'il nous a enlevés tout de suite après notre conversion, ça aurait simplifié les choses. Mais il y a une volonté de Dieu de ce que notre vie puisse honorer son nom. C'est encore Luc Adot qui avait dit « Il n'y a rien de plus repoussant pour les non-croyants que des chrétiens moroses. » Nous ne pouvons pas mériter ou payer la grâce de Dieu, mais nous sommes appelés à la vivre comme un témoignage de ce que Christ a fait pour nous. L'apôtre le rappelle aux Galates, « Voici ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou de votre chair, d'après certaines traductions. » Et quelques versets plus loin, il énumère les fruits de la chair et les fruits de l'Esprit. Vous connaissez bien le passage dans Luc 5, à partir du verset 22. Et par exemple, et là, ça devient très réaliste et très pratique pour chacun de nous. Par exemple, l'amour fraternel est quelque chose qui nous est demandé à plusieurs reprises dans l'Écriture. Qu'est-ce que ça signifie pratiquement? Est-ce que j'ai dans mon cœur, ce matin, un sentiment négatif, d'accusation, de critique vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur? Ne cherchez pas plus loin. La seule solution, demander pardon. Ou encore, parce que l'attaque de l'ennemi vient bien sûr par la médisance, la critique. Ou encore, la soumission réciproque nous est demandée à plusieurs reprises aussi. Et l'attaque de l'ennemi, c'est l'orgueil, les querelles, les jalousies. Qu'est-ce que j'ai été quelquefois attristé par des critiques, des problèmes, des divisions, même jusque dans les églises évangéliques, dont j'ai été le pasteur pendant plus de 40 ans. La tristesse de voir le chrétien qui est appelé à aimer son prochain, à bâtir le royaume de Dieu dans la mesure de ses limites sur terre. Et là encore, seule réponse, le pardon. Ou troisième exemple, Jésus a prié pour l'unité des chrétiens dans Jean 17. Or, division, critique négative, orgueil ont tant de fois entaché l'image d'une église parfaite que le Seigneur a imaginée. Oh, il l'a imaginée, oui, mais sachant que l'homme imparfait aurait toujours avec lui les tentations de s'éloigner de ce plan d'unité par des divisions, des critiques négatives ou par l'orgueil. Là encore, je l'ai rencontré que trop souvent. Mais quand je regarde mon propre cœur, je me rends compte que ces choses sont en moi par nature. Mais il n'y a pas de fatalité de succomber à la tentation. L'apôtre résume le comportement chrétien dans Philippiens 4, verset 8, en montrant comment nourrir la grâce de Dieu dans nos vies. Il écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Une réponse apportée se passe au niveau des pensées, parce qu'on sait très bien qu'avant l'acte, il y a la pensée, et que Dieu puisse donc diriger nos pensées, nous inspirer nos pensées. Pensées justes vont aboutir à des actions justes, comme le contraire est vrai aussi. Et dernier mot que j'ai marqué, c'est que la grâce se proclame. Nous sommes témoins de la grâce. Nous ne sommes pas forcément tous des grands évangélistes, mais nous sommes témoins de la grâce dans la vie de tous les jours. Et encore tout récemment, il m'est arrivé de prendre de l'essence et en payant avec la dame derrière sa cabine, elle me tend le ticket avec un sourire. Alors, je prends le ticket et je dis « Merci madame et merci pour le sourire ». Elle a eu un sourire encore plus grand. Mais je veux juste dire que témoigner de notre joie en Christ, exprimer aussi notre empathie vis-à-vis de ceux qui souffrent autour de nous ou qui sont éprouvés, ou encore par la libéralité que Paul appelle un parfum de bonne odeur. Et la question peut simplement se poser à chacun de nous ce matin, suis-je un témoin de la grâce obtenue? Et je termine par la citation de l'apôtre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il écrit ça aux Corinthiens. Ce n'était pas encore la fin de sa vie. Il était plein dans le ministère. Il a commencé comme ça, et par la grâce de Dieu, il finira de la même façon. Il pourra dire ça jusqu'au dernier jour de sa vie. Voilà donc une petite esquisse de ce que peut signifier la grâce de Dieu. C'est très, très imparfait, mais je demande simplement que l'Esprit de Dieu puisse réveiller en vous ce désir de plaire à Dieu, de reconnaître l'envergure de cette grâce dont nous sommes l'objet et de permettre à chacun d'être un reflet, imparfait il est vrai, mais quand même un reflet déjà sur cette terre de cette grâce obtenue, et que cela puisse permettre à d'autres d'avoir envie d'être des graciés en Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour la grandeur de ton sacrifice, merci de nous rappeler que si nous sommes ici devant toi ce matin, c'est parce que tu as payé le prix de notre culpabilité, tu nous as réconciliés avec le Dieu vivant. et nous pouvons nous dire non pas des gens parfaits ou sans péché ou sans culpabilité, mais comme des gens pécheurs, oui, mais pardonnés par le sang de Christ. Veuillez simplement graver ces choses dans nos cœurs ce matin, tout à nouveau, pour nous permettre d'être inspirés par ton esprit, pour penser juste et pour agir juste. Je le demande pour moi, j'en ai besoin, et je le demande pour chacun de nous ici présents ce matin, dans le bon nom de Jésus. Amen.